La mode, c'est permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées. C'est très difficile.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. La mode raconte-t-elle l'histoire du XXe siècle? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien de la mode, Olivier Saillard. Aujourd'hui, troisième épisode, les années 40-50, de la débrouille sous l'occupation jusqu'au New Look de Dior. 14 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Paris. Une semaine plus tard, l'armistice est signé entre Pétain et Hitler. Commencent 4 années d'occupation. Pour les Français, à des degrés divers, des années de souffrance et d'humiliation. Dans ce désastre, que pèse la mode? Quand on a peur ou qu'on a faim, qu'importe la coupe ou la couleur d'un manteau, pourvu qu'il soit chaud. D'autant qu'il fait très froid. L'écrivaine Colette raconte que le thermomètre descend si bas dans son appartement du Palais Royal à Paris que dès 6 heures du soir, en robe de chambre, elle se met au lit avec un tricot et son chat en guise de chauffage, à la guerre comme à la guerre. Ma grand-mère, qui a passé une partie de l'occupation réfugiée dans une ferme, l'hiver, elle lavait le linge dehors dans l'abreuvoir, emmitouflé dans un vieux manteau de fourrure râpé, sabots aux pieds. Pour l'élégance, on repassera. Mais quand un jour, dans la rue, un officier allemand lui caressera la joue avec un « jolie mademoiselle », elle essuiera l'affront avec un mouchoir brodé d'un très visible drapeau britannique. Quand l'accessoire de mode devient un petit signe de résistance, une réponse malicieuse à la tristesse et l'humiliation.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
À Paris s'est tenue l'exposition de la chaussure 41, dont certains modèles s'inspirent des sabots de nos paysans. Les chaussures sont toutes ici sans ticket. L'ingéniosité est reine. Nous voyons même la semelle en magnésium. Les talons en verre, incassable, espérons-le, la semelle tout en bois souple. Grâce à cet esprit inventif des artisans parisiens, nos élégantes, on le voit, n'auront pas trop à craindre les restrictions d'aujourd'hui.
Pour plein de raisons, la mode a été sous l'occupation un véritable enjeu. D'abord à cause des pénuries sur les tissus, la laine, le coton, le cuir. S'habiller est devenu un véritable casse-tête. La débrouillardise et le bricolage deviennent la règle. Ensuite, l'enjeu est économique. Les maisons de couture, qui n'ont pas déjà fermé au début de la guerre, sont menacées, ainsi que les simples ateliers de confection, à Paris et en province, qui emploient beaucoup de personnel. Menacées par les restrictions et par l'absence de débouchés commerciaux, les exportations étant désormais interdites. L'enjeu est aussi culturel. D'un côté, le régime de Vichy, au nom de la morale et du retour à la terre, invite les femmes à abandonner toute coquetterie. Belle hypocrisie. De l'autre, les Allemands s'intéressent de près à la haute couture, ce symbole français. Quelques couturiers se laisseront séduire et, à des degrés divers encore, collaboreront avec les nazis. Le plus impliqué sera sans doute Marcel Rocha. Jacques Fath s'affiche ouvertement aux réceptions allemandes. Madame Gray, elle, osera faire défiler devant des Allemands des robes bleues, blanc, rouge, dans cet ordre. Jacques M., lui, qui est juif, voit sa maison de couture arianisée. Coco Chanel tentera, grâce à ses lois d'arianisation, de récupérer les parfums Chanel, dont les propriétaires, qui sont juifs, ont dû fuir aux États-Unis. À plusieurs reprises, le président de la chambre syndicale de la haute couture de l'époque, le couturier Lucien Lelong, reçoit la visite, parfois musclée, d'officiers allemands. La menace est claire. La haute couture française doit être intégrée dans un organisme allemand et déménagée à Berlin et à Vienne. Lucien Lelong réussira, non sans mal, à empêcher ce transfert. « Vous pouvez tout nous imposer par la force », dit-il aux Allemands, « mais la haute couture parisienne ne se transfère ni en bloc, ni dans ses éléments. Elle est à Paris où elle n'est pas. » Olivier Saillard, il s'en est fallu de peu que les maisons de couture françaises soient transférées en Allemagne pendant la guerre.
Oui, oui, tout à fait. On doit vraiment à Lucien Lelong, qui était lui-même couturier et président de la Fédération de la Haute Couture Française, de s'être opposé à l'occupant et d'avoir insisté pour que la haute couture, qui n'est pas qu'une histoire de couturière et d'atelier, c'est une histoire d'humeur, c'est une histoire, il aurait fallu déplacer les monuments, cette manière de vivre qu'on avait à Paris. Il a vraiment lutté pour maintenir la haute couture à Paris et il a réussi. Sinon, ce serait peut-être en effet à Berlin. dans cette période de crise.
Il faut signaler qu'à la Libération, Lucien Le Long a été quand même menacé, enfin inquiété en tout cas, suspecté d'avoir collaboré et avant de faire finalement reconnaître son action pour sauver la haute couture française.
Oui, c'est assez injuste. Lucien Le Long a été une grande figure de la haute couture parisienne qui s'est beaucoup impliquée, qui a beaucoup donné le soutien à des nouveaux couturiers et qui, Christian Dior, Pierre Balmain. Et donc, je crois que vraiment, sur cette lutte qu'il a opposée à l'occupant, il n'y a rien à dire.
La haute couture donc, a pu continuer à travailler pendant l'occupation. Bon, il y a eu, je l'ai dit, des cas un peu de collaboration, mais malgré tout, ce n'était pas que les Allemands qui achetaient la haute couture.
Non, il n'y a pas que les Allemands. Il y a une clientèle américaine, sud-américaine très importante, européenne encore, russe énormément. Et puis, il y a des couturiers qui ont décidé de se mettre à distance, comme Elsa Schiaparelli, qui a décidé de mettre en veille ses ateliers, ou Madame Gray, que je trouve très exemplaire, qui a aidé beaucoup d'ouvrières à se cacher, à maintenir son emploi, qui n'a pas hésité, comme vous l'avez raconté, à montrer des robes bleu, blanc, rouge en pleine occupation. Non, vraiment, elle n'a pas eu un doute sur l'effort qu'elle devait elle-même faire.
Et les femmes du peuple, enfin les Françaises, elles s'habillent comme elles peuvent, elles se débrouillent. Et en même temps, il y a un style particulier, pratique, qui va se créer comme ça, un peu spontanément, pendant l'occupation.
Alors, il y a une chose très intéressante dans la mode des années 40, c'est que c'est une mode qui est décrite un peu comme outrée, comme un peu outrancière. Ce sont des vestes d'hommes que l'on retaille pour la femme, avec des épaules très larges. Ce sont des jupes qu'on raccourcit, dont on fait des shorts pour pouvoir aller à bicyclette, ce sont des chaussures à semelles de bois, mais cette allure, qui est finalement une allure très proche des années 70 et des années 80, va avoir beaucoup d'influence sur tous les créateurs qui suivent. Et puis aussi le cinéma des années 40 et celui qui s'approche des années 50 est un cinéma qui va transporter beaucoup ce pictogramme d'une femme très sûre d'elle-même avec des épaules larges.
Les films, il y a Falbala, le film
Falbala,
de Jacques Becker.
Il y a Les Dames du Bois de Boulogne, notamment avec les robes de Gray et de Elsa Schiaparelli. Une mode assez grave, qui appartient aux femmes elles-mêmes, parce que c'est elles qui l'ont dicté plus que les maisons de couture, cette envie d'avoir un vêtement urbain adapté à leur mode de vie, puisque une fois de plus elles étaient ramenées à la réalité économique, a permis une seconde émancipation de la mode féminine. Ça sera de courte durée.
Oui, cette courte durée, à peine la guerre est-elle terminée, qu'un nouveau style vient balayer le souvenir de cette silhouette de l'occupation. C'est le New Look, inventé en 1947 par Christian Dior.
Christian Dior vous dit tout, madame, sur sa collection d'automne. Ses tailleurs respecteront la ligne longue. Les basques seront écourtées, le buste rond, les jupes évasées. Les nages et teintes sombres surtout, dominées par le noir. La robe, elle, sera d'ampleur mesurée, nette et souple, souvent marron ou cannelle. Les robes de petit dîner seront noires et brillantes, comme Lavallière, en faille, habillée d'un spencer de satin.
Ce New Look qui apparaît en 1947 avec Christian Dior est un retour au fast. Ça ressemble justement un petit peu au 19e siècle, puisque Christian Dior s'inspire de la garde-robe de sa mère, qui est de la belle époque. Et c'est un retour au fast avec des métrages de tissu comme il n'y en avait plus. On sort à peine d'une période de pénurie, ça fait scandale. Là où il y avait des corsets, on remet des gaines. Les épaules sont très cadenassées, les robes très amples. Une robe faite pour sourire, c'est une...
pas pour revendiquer.
c'est une mode qui fait plaisir, sans doute, justement, pour une forme d'insouciance. Il faut bien le dire, elle est un petit peu un pas en arrière sur les acquis qui étaient celles de la femme dans les années 40.
Oui, vous dites, les femmes retrouvent leur place d'antan, celle d'exquise maîtresse de maison et d'épouse parfaite avec ces robes.
C'est ce qu'on leur dit. Elles ont tout fait ce qui était en leur devoir pendant la guerre pour accuser réception de tous les rôles qu'on leur demandait. Mais dès que les maris, les frères, les pères sont revenus, on leur a demandé de bien revenir docilement au logis. On a inventé pour elles des boîtes tupperwares, de l'électroménager qui allait les rendre heureuses et une mode qui était le retour de la gaine. C'est pas rien le retour de la gaine.
La gaine et l'aliénation.
Et l'aliénation.
Et c'est un enjeu économique aussi, pour
avec
la France.
Avec la bombe qui est le New Look de 47, en effet, il y a la naissance d'un nouveau monde pour la mode. C'est une internationalisation de la mode. Avec Christian Dior, il y a aussi l'usage des nouveaux moyens de communication, la télévision, la radio, les magazines, et Dior devient, au-delà d'un personnage, un métier à rêve.
Merci Olivier Saillard. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la mode des années 60-70 avec l'arrivée du prêt-à-porter et d'un jeune génie, Yves Saint-Laurent.